30 octobre.
Non, Julien, je ne partirai pas avec vous. C'est mort, mon bonheur, ma vie. Ce serait mort, votre amour. Sous le soleil, errante, libre, logée chez vous, une religieuse, c'est un fantôme qui disparaît. Une religieuse, mon ami, cela se prend dans une cellule, une nuit de mai, au pied d'un crucifix, sous un rameau de buis près du bénitier, près du petit paroissien ouvert. Cela se prend la nuit, dans une cellule blanche, carrelée, paisible, lorsque la cloche immobile rêve, lorsque la paix de la chapelle, par les fentes des portes, monte jusque dans les couloirs. Une religieuse, on la désire parce que, chaque fois, elle dit « On ne peut pas s'habituer, c'est trop mal. » Mais vous savez comment on n'écoute pas. Une religieuse qui n'a plus un visage ovale, étroit, pareil à un miroir entouré d'argent, et qui aurait, comme Jeanne, un chapeau de bergère, un petit renard de la forêt autour de son cou, une religieuse qui se promène dans Pau, dans Tarbes, dans Bayonne, qui va dans vos théâtres, qui dit « Quand j'étais religieuse ?» On la méprise, on n'y fait pas attention. Cela n'a pas de goût, c'est mort. Partir ? Partir ? Comment partirais-je ? Oh, train noir qui vous dépêchait tant, que vous étiez beau quand vous passiez sur la colline, que vous êtes beau pour les cœurs immobiles, pour la haie, pour le petit talus, pour le tournesol qui est dans le jardin du garde-barrière. Julien ne reviendra pas me voir avant 8 jours. J'ai obtenu cela de lui. Il y a des moments où on veut être seul, où on a un dégoût qui est au-dessous de la mort. 1er novembre. Je ne veux rien. Je veux du silence et rien. J'aurais envie de dire au bonheur comme au malheur, laissez-moi, attendez, ne venez pas encore. Novembre. Je ne pouvais plus toujours mentir. Ce matin, je ne pouvais plus toujours mentir. Ce matin, comme la mère abbesse faisant un reproche à la sœur Catherine, ajoutait en me désignant « Soyez donc comme votre sœur. » J'ai senti que je mourrais, et avec une rapide violence, j'ai dit « Ma mère, je voudrais vous parler. Puis-je venir chez vous tout à l'heure ?» Elle a répondu « À 10 heures, venez. » Il était 10 heures, j'ai frappé à la porte de la mère abbesse, je suis entrée. Elle s'est levée avec bonté et contentement. Son regard exprimait « C'est vous, ma petite fille bonne et incompréhensible. » Je me suis penchée contre elle et j'ai commencé à pleurer. Pendant que je pleurais ainsi près de son épaule, je pensais « Je suis jeune et faible, je vous aime, ma mère. Je porte en moi le désir qui est aussi la poésie infinie. Oh mon Dieu! Ne suis-je pas la plus intéressante de vos créatures ?» Elle ne pouvait pas comprendre ce que j'avais. Elle me pressait contre elle avec tranquillité, comme si cette étreinte forte et douce était assurée de sécher toute ma peine. Et j'ai eu pitié de nous, pitié de ce moment de confiance et de paix. J'ai soupiré. Je n'avais rien à vous dire. Je voulais seulement vous voir. Savez-vous combien je vous aime ? Et elle a souri. Alors j'ai senti que je n'avais plus de courage pour la tromper encore. J'ai senti confusément que celui qui sait, qui a un secret, un mystère, fût-ce un crime, est toujours plus fort que celui qui ne sait pas, qui est plein de confiance et qui sourit. Tromper un être, mentir, c'est avoir sur lui une supériorité, c'est se moquer. Je ne voulais pas avoir sur elle, que j'adore, mon Dieu, cette supériorité sournoise et lâche. Avec une force désespérée et je ne sais quel silence, quel mot, quel soupir, je lui ai raconté, expliqué, avoué, tout dit. Et j'ai vu que lentement, lentement, avec une difficulté, un effort, une peine épouvantable, elle arrivait à savoir. Ma mère, vous le savez. Il y a une heure, vous ne le saviez pas, vous ne saviez rien. Maintenant, votre visage est décomposé. Elle a marché dans la chambre, je me suis levée. Je devais être très pâle. Elle a dit durement « Ne restez pas debout ». Elle a poussé près de moi une chaise. Elle aussi s'est assise. Elle a réfléchi. « Ma mère, j'ai vu le mal que je vous faisais. Je vous ai pris un peu de votre vie. » Elle a fait mine de vouloir parler, et puis elle s'est tue, avec un air trop découragé. Elle et moi n'avions plus de force. J'ai dit je ne sais plus quoi, et finalement j'ai affirmé « C'est fini, je ne le verrai plus qu'une fois pour lui dire adieu, si vous le permettez, dans le parloir, près de vous. Mais alors, elle a dit, non, nettement. Chaque fois que je suppliais, que je répétais la même phrase, elle disait non. Et c'était une conversation qui titubait, qui se heurtait, qui jetait des larmes. Elle s'est mise ensuite à parler violemment. Elle avait dans les yeux de la colère et du mépris, et moi aussi de la colère et du mépris. Et elle m'a dit des choses vives, aiguës, blessantes. Et je trouvais que son visage devenait laid, et je la haïssais. Et nous nous sommes quittés brusquement, comme on s'arrache, par dégoût. Mais je pense à elle ce soir. Elle est là-bas dans sa chambre. Elle est dans le silence et la solitude. Nul ne la touche, nul ne la porte sur soi. Elle est sous sa lampe. Si son travail ordinaire la rebute, si elle s'effraie d'être si découragée, personne ne le sait. Peut-être elle a mal à la tête. Si elle pleure, si elle a la main contre son front et qu'elle dise tout bas « Je n'en peux plus ». Personne ne la voit. Elle est sous sa lampe. Sa robe rôde sur le parquet ciré. Elle est là comme si elle était oubliée du monde entier. Elle doit avoir le visage un peu rouge à cause de cette discussion qui l'a agitée. Quand elle est agitée, sa figure a quelque chose de confus et de faible. Peut-être qu'elle pense à elle, une fois. Elle se dit « Qu'est-ce que j'ai eu de bonheur ?» L'expression de son regard devient douce, amère, étonnée, et telle que le regard qu'elle a dû avoir quand elle était petite fille. Elle est toute seule dans sa chambre. Si elle marche, elle entend le parquet craquer et son cœur qui bat. Et puis rien. Elle est peut-être désespérée. Si un ami qu'elle a aimé entrait maintenant et disait « Je vous adore », peut-être elle s'appuierait contre lui en mourant de larmes. Oh ma mère, ma mère. Minuit. Je commençais à m'endormir. La supérieure est entrée, s'est assise auprès de mon lit. Elle me regardait. Hélas, comme elle est bonne. Je me suis éveillée. Alors, d'une voix lente, rompue et toute courbée, elle m'a dit « Je m'épuise à penser à vous. Que faire? Il n'y a rien à faire. Moi, dès votre âge, j'ai eu de la force, mais je suis rude. Quand vous me voyez aller dans la maison, agir, commander, faire le maître, le tapissier et le maçon, je ne suis plus malheureuse. Je suis dure. Les êtres que j'ai beaucoup chéris, je les ai tant mêlés à moi-même que j'ai été dure pour eux comme pour moi. Aujourd'hui, ce que je puis contenir d'émotions terribles ne fait de bien et de mal qu'à moi. Je marche maintenant vers la tombe. Je m'étonne qu'une flèche nouvelle puisse percer un cœur qui est tout entier brisé. J'étais si touchée que je ne pouvais pas répondre. Je tenais embrassée les mains de la supérieure et je songeais qu'en effet elle était auguste, et dissimulées comme les saintes poupées espagnoles qui ont une couronne de pierreries, des robes de soie, un mouchoir en dentelle, un air d'apparat et les bouches les plus désolées. Je ne pouvais rien lui répondre. Je sentais mes lèvres scellées par un fermoir d'or et d'amour. Elle a continué de parler. « Dois-je, disait-elle, vous retenir ici ou vous éloigner? Le Dieu que je sers ne donne de joie véritable qu'à moi qui suis déjà morte et à notre sœur Catherine. Vous ne pourriez que languir près de nous. Je ne veux pas que vous mouriez. Allez-vous-en. Si vous restez, je ne vous épargnerai ni ma vigilance, ni ma méfiance, ni ma sévérité. Allez-vous-en. » Je la voyais, elle se faisait du mal à elle-même. Sa bouche semblait goûter la ciguë. Elle que j'ai connue si forte, elle était comme un roi qui pense « Je ne peux plus. Qu'est-ce que cela fait qu'on me prenne tout mon royaume ?» J'étais étranglée d'émotion. Son visage, ses mains, un cercle d'argent dur qu'elle a autour du poignet gauche et la place de son cœur que je voyais rouge et consumé, m'enivraient comme le plus auguste encens. La tristesse et l'amour, où sont-ils plus abondants que sur vos genoux? Et cet air de passion qu'on respire autour des objets précieux que la poussière écrase, autour des profonds tapis de l'Asie amoureuse et d'un peigne parfumé du Japon, où est-il plus fort que sur votre épaule, recouverte du lourd manteau? Ma mère, vous rêvez tout le temps, vous êtes active, mais votre esprit ne fait pas attention. Il ne fait attention qu'aux rêves et aux voluptueux plaisirs. J'ai vu vos yeux lorsque vous écoutez la musique et que vous regardez la lumière. C'est votre regard, désespéré mais toujours enchanté, qui est la baie délicieuse des ports de Chine, où entrent, par un jour de soleil, toutes les jonques dorées. J'ai pris votre main, et je vous ai dit, je reste. 8 novembre. Ma vie se purifie et s'apaise. Voici mon dernier secret. Julien viendra demain soir. La mère abbesse ne le sait pas. Julien, ne vous fâchez pas si je vous parle avec une voix faible et basse, comme en ont les enfants qui ont dans la journée beaucoup crié. Je n'ai plus de force. Vous me demanderez encore de vous suivre. Je dirai oui, mais je ne le pourrai pas. Mes pieds ne me porteraient pas hors d'ici. C'était un matin en mai. Tout était si beau que les arbres chantaient. Mon couvent était frais, doux, parfumé comme l'intérieur d'un melon blanc. Vous êtes venu. Il y avait dans la chapelle un tableau calme qui est là, qui ne regarde rien. La Vierge avec un petit enfant endormi. C'est pour cela que vous êtes venu. J'étais près de vous avec mes sœurs. Je priais. Vous m'avez vu. Et maintenant je suis comme je suis au fond de l'abîme du monde. Il faut que je vous explique, comprenez-moi. Avant de vous connaître, je me réveillais le matin lentement. C'était si délicieux autour de moi que j'écoutais d'où venait cette joie, et il me semblait qu'une voix légère répondait « Ce n'est rien, c'est la jeunesse et la solitude. » Alors, je croisais les mains, et je regardais l'air et la vie, et c'était divin. Et puis je me levais, j'irais dans le couvent, sous les voûtes des corridors, où l'air est pur et un peu froid comme dans les gorges des montagnes. Je m'amusais de voir le parquet qu'on cire, qui luit, et qui sent l'abeille. À midi, un fleuve de soleil entrait par la fenêtre au réfectoire. Je m'arrêtais de déjeuner pour le regarder. J'aimais le silence. Je connais bien le bruit du silence, un bruit fin qui semble se dérouler à l'envers. J'aimais la chapelle, son odeur de plâtre et de bénitier, sa blancheur et sa paix qui la rendent pareille à un verger de lys. Et puis je me promenais au jardin, dans les petites allées que le buis entoure. Je ne pensais à rien. Je m'étonnais à chaque minute que la vie fût ce qu'elle fût, dorée comme la paille neuve, comme les papillons, le soleil et les jonquilles. Le soir, quelquefois, lorsque la lune luisait dans le ciel foncé, entre les deux cyprès du jardin, je sentais une petite peur de la mort me fendre le cœur. Je rentrais pour être à l'abri. Je m'endormais avec un contentement qui emplissait mes mains. 9 novembre. Hélas, comment resterai-je? Après deux journées pieuses et paisibles, un singulier délire me gagne. Je ne vois plus rien autour de moi, et dans ces ténèbres, une lumière unique m'aveugle, plus coupante qu'une épée d'or. Je m'enferme avec vous et je meurs. Rayon incomparable qui est le souvenir et le désir, qui est la connaissance du bien et du mal, et leurs goûts confondus. Comment resterai-je? Désir, ô poésie aimable et sauvage, plus âcre que le buisson et le renard, et pourtant affiné comme l'extrême parfum de la gomme d'Arabie. Je revis tout le passé voluptueux, naissant vertige, heure délicate et audacieuse, minute où une plus vive étreinte dévoile enfin le dernier secret physique, qui est l'âme, emploi de l'âme et du regard, âme découverte qui s'effraie, tremble et recule, et peu à peu s'enhardit, triomphe et chante, je suis brûlante, voyez-moi. Âme, place de l'être où afflue le sang le plus sensible, c'est vous que l'amour baise et déchire, fleur mystérieuse à qui la blessure et la douceur sont également plaisantes, car ce qui vous déplaît est encore votre plaisir. Hélas, comment resterai-je? La tige du rosier au printemps était légère, mais en été le poids de toutes ces fleurs la courbe et l'entraîne. Ma vie est lourde et n'est plus effarouchée. Si un jeune homme et encore un jeune homme entraient ici, je les regarderais avec confiance et je leur dirais « Vous n'êtes pas pour moi des étrangers, vous qui êtes comme l'autre. » Comment rester ici? Quels soins occuperaient mes journées? Que distinguerais-je dans ces ténèbres? Toucherais-je avec mes mains, avec mon cœur, les objets de la vie humble et quotidienne? Dirais-je pour des choses ordinaires, ceci est agréable, ceci est bon, moi qui ai connu l'énergie indéfinie et cet inimitable épuisement où quand l'âme semble déjà morte, l'amour lui verse encore des raisons de mourir. 10 novembre. Malgré ma fatigue et ma détresse, et même si je ne dois pas survivre à tant de peines, Je veux retracer toute la douleur de cette nuit. Mais que ne puis-je d'abord m'anéantir? Ô mort bien paisible, divin enfoncement dans la terre brune, terre granuleuse et sèche comme la robe de Sainte Thérèse et de Sainte Claire, c'est vous seul que je souhaite, et non point les paradis où éclatent des cérémonies somptueuses et bruyantes. C'est vous, le repos des âmes amoureuses, des corps féminins, orgueilleux et sensuels, qui devant l'inévitable baiser ont chancelé de tout leur être, ont donné au monde le parfum émouvant et fort de la dignité exténuée. J'essaye de me rappeler tous les moments de cette nuit. Vers 11 heures, Julien, qui a toujours la clé d'une des portes du couvent, est venu à pas étouffés. Je l'attendais. La chambre était comme d'habitude fraîche et calme, un peu sombre. Une bougie brûlait. Je me suis levée de la chaise où j'étais assise, mais Julien m'a ramenée vers cette chaise, et s'étant mis à genoux près de moi, il s'est appuyé sur moi. Je le regardais. Il était pâle et froid, et il avait cette faiblesse, émouvante, qui semble être son autre courage. Et moi je pensais, je tiens dans mes bras ma passion et mon sacrifice. Nous sommes restés longtemps ainsi, et je sentais que je n'aurais jamais la force de lui dire « Nous nous voyons pour la dernière fois. » J'étais accablée. J'espérais mourir, et en même temps je me sentais inerte et dure. Julien parlait sur mon épaule. J'entendais à peine ses paroles, je les sentais molles et chaudes qui se consumaient. Et puis il a dit, sans me regarder, pour ne pas savoir ce que répondrait mon visage, « Venez, n'est-ce pas? Vous venez ?» D'abord, je n'ai pas répondu. J'étais désintéressée de moi, de ma douleur et de ma vie. J'étais un spectateur qui pense « Voilà, voilà. » Et puis j'ai dit « Oubliez-moi. » Mais j'ai eu aussitôt un désespoir profond d'avoir dit quelque chose d'aussi lâche et d'aussi vain, car il m'a regardé avec une angoisse épouvantable, et il a demandé plusieurs fois « Vous ne m'aimez pas ?» Mes yeux se sont fixés sur lui avec tant de détresse qu'il aurait dû, par pitié, dire « Je vois que vous souffrez trop. Je vais vous tuer et mourir avec vous. » Mais il a repris. « Vous ne m'aimez pas. Voyez comme vous avez agi. Vous avez pris de ma vie ce qu'il fallait à votre plaisir. Vous avez laissé grandir en moi cette passion. Vous êtes-vous inquiété, tandis que vous me reteniez au pied de ce monastère, de votre conscience et du couvent que vous déshonoriez? Vous espériez que la vie continuerait ainsi, pour votre paix et votre agrément. Avez-vous jamais pensé que j'avais une famille, des devoirs, un avenir, et qu'un homme ne reste pas pendant des années sous les voûtes d'un cloître à désirer mortellement une jeune femme folle qui s'amuse davantage avec ses prières, ses dieux, ses contes de fées? » De telles paroles me faisaient tant de peine que je disais doucement à Julien « Allez-vous-en. » Mais il n'écoutait et n'entendait pas ma voix. Et il reprit, ah, « si vous étiez ce que j'avais pu croire d'abord, ce que j'espérais, une religieuse candide et simple, avec qui c'eût été attendrissant de parler quelquefois le soir, et qui aurait toujours eu peur, qui n'aurait jamais rien accordé, je pourrais aujourd'hui vous dire adieu tranquillement. Mais vous... » Je l'interrompis, et je suppliai avec terreur, « Allez-vous-en !» Il a continué d'une voix basse et brûlante, « Je ne m'en irai pas. Vos cris ne me font pas peur. C'est vous qui avez peur, ma sœur, parce que vous savez bien que si je le voulais, que chaque fois que je le voudrais, vous détourneriez votre visage de Dieu, et de votre sécurité, et de votre paix, et que vous attacheriez sur moi des yeux qui s'accrochent au danger, au plaisir, à l'infini. » Et je lui ai répondu, « Mais vous ne voyez donc pas qu'il y a 10 mois, vous êtes entré ici comme un lâche, comme un voleur. » Alors il s'est approché de moi avec un visage tout bouleversé. Il s'est collé contre mes cheveux et il m'a dit « Je partirai, et c'est vous qui m'appellerez. Je pars, je vous laisserai le nom de la ville où je vais vivre, et je recevrai de vous des lettres plus déchirantes que celles qu'écrivit il y a 100 années une religieuse portugaise. Je pars et je te laisse, ma bien-aimée, tous les accents, tous les regards, toutes les brûlures que je t'ai apprises. Tu auras si chaud à la tête, quelque soir, en pensant à moi, que tu t'appuieras pour ne point défaillir contre les murs de cette chambre, contre tes carreaux glacés. L'innocence, la véritable pureté, elle est sourde, elle est aveugle. Mais toi, tu es pleine de rayons et de sonorités. Tu ne sauras que faire de ton âme pendant les nuits de juillet, ton âme et ton goût des étoiles, et ta langueur devant l'odeur des lilas. Tu t'en guérissais par tes baisers et tes larmes, par ton désespoir et ton péché. » Il s'arrêta, puis il reprit avec colère. « Vous n'avez jamais ressemblé à une religieuse. La première fois que je vous ai vue, vous étiez pareille à ces turques voilées qui sont assises dans le cimetière de Scutari. Essayez maintenant de goûter la pénitence et le sacrifice. Vivante et mourante, vous appartenez au bonheur. Vous lui appartenez comme une malheureuse, comme une esclave enchaînée. » Je haletais de lassitude, d'accablement et d'un chagrin infini tandis que Julien parlait. Je tenais doucement sa main, la main de mon unique ami. « Oh Julien, laissez-moi vous dire, pendant que vous parliez ainsi, je ne vous en ai pas voulu un instant. La grande injustice des hommes envers les femmes, je ne vous la reproche pas, elle est une part profonde de la volupté. » Julien continuait. « Je vous aime, ma bien-aimée, et nul ne vous aime que moi, qui ai respiré votre peur, qui ai bu l'acidité de vos larmes et de vos tempes mouillées. Mes bras autour de vous sont graves et bien serrés comme le sera un jour votre triste cercueil. Je vous tourmente et je vous hais, mais je vous désire, et le désir c'est l'abîme, la servitude infinie. » Il me semblait que j'entendais moins les paroles de Julien, que je ne les voyais, comme des lueurs tremblaient devant mes yeux. Un froid lourd engourdissait mes pieds et mes bras. Je sentais que j'allais m'évanouir. Je tenais la main de Julien, sa main dont la chaleur me semblait encore la sécurité, le repos, le bienfait, la seule place aimable du monde. J'étais contente, et peu à peu si faible que j'ai dit « Je vais m'évanouir. » Alors Julien m'a demandé brusquement, comme pour profiter de ma dernière raison, « Voulez-vous venir? Aujourd'hui, demain, quand vous voudrez? Mais jurez-moi que vous allez venir. » Et j'ai pleuré parce que cela me semblait impossible, parce que ma tête, ma pensée ne peuvent pas concevoir cet acte, parce que je ne peux pas, parce que c'est plus facile de mourir. Brusquement, Julien s'est levé, il a dit « Je vous quitte, adieu. Pendant 2 semaines encore, dans cette ville, je vous attendrai, j'attendrai vos lettres, et puis je partirai pour Paris où vous viendrez me rejoindre dans la maison que j'habite rue de Condé. Il faut que vous ayez choisi, que vous soyez libre et tout à moi. Adieu, adieu. » Il est parti. J'ai dû m'évanouir. Ce matin, je me sens encore très mal. Comment ai-je pu écrire tout ça? Je crois que ma tête glisse, que je me rendors. 6 décembre. J'ai été très malade. J'ai eu le délire, paraît-il, pendant 3 semaines. Je suis mieux, mais je suis sans force et toute morte. Cela n'est pas pénible. Je suis là, couchée. Il y a près de moi une assiette avec des oranges et du raisin. De temps en temps, une de mes sœurs vient me voir et fait de la tapisserie près de ma fenêtre. Quand la mère abbesse entre, elle a un regard qui essaie de rire. Elle prend mon poignet avec autorité, et l'anxiété de son visage déverse sur moi plus de tendresse qu'elle ne voudrait. Mais je n'ai plus de force pour écrire. Qu'est-ce qui fait ce bruit? C'est la sœur Marthe qui nettoie doucement le loquet de ma porte. Décembre. Mon chéri, voilà plus de 3 semaines que je suis malade. On ne me donne pas vos lettres, et si je vous écrivais, on ne vous ferait pas parvenir les miennes. Je n'ai plus de force, je voudrais beaucoup mourir. Par moments, je vous vois comme si vous étiez très loin. Je n'entends presque plus votre voix, et à d'autres instants, votre image emplie et déchire mon cœur resserré. Je ne sais si je redoute ou si je souhaite que vous vous effaciez en moi. Tout ce qu'on peut souffrir, je l'ai souffert. J'ai pensé m'éteindre de violence et de colère, et maintenant je souffre d'une douce et terrible sentimentalité. Ce sentiment fait plus mal que les autres. Je pense à vous avec une tendresse qui me tue. Je suis là, couchée près de la sœur Marthe qui brode. Je vois par la fenêtre un ciel d'hiver très bleu. Si je n'avais connu que votre passion et la mienne, je pourrais aujourd'hui, où je suis si malade, oublier. Mais j'ai connu, mon chéri, votre bonté. J'ai connu votre bonté pour moi auprès de laquelle l'affection de la supérieure est pauvre et blessante, la sympathie de mes sœurs misérable. Vous m'avez tant donné, dans des moments de douceur sans limite, que l'attention moindre de toutes les autres âmes ne peut plus que m'offenser. La pureté, l'amitié infinie, c'est nous qui les avons goûtées, dans les instants où sans secret, sans défiance, nous fûmes vraiment des âmes mêlées, des regards pareils. Que les amies parfaites aient entre elles besoin de précautions et d'égards, que les frères et les parents se respectent et craignent de s'offenser. Mais nous, quels soins eussions-nous pu prendre d'une âme qui nous était commune? Je me souviens que vous sembliez oppressée la nuit où vous m'avez quittée. Hélas, je n'ai pas suivi votre douleur. Comment étiez-vous quand vous êtes rentrée dans votre chambre, quand votre bras pendait le long de votre corps, quand vous vous êtes assis avec stupeur, car les hommes, n'est-ce pas, sont étonnés de souffrir. Mon chéri, cette sentimentalité dont la douceur fait mal, je ne puis l'écarter de moi. Elle pèse sur mon cœur et m'étouffe, comme ces beaux chats chauds et fourrés qui s'endorment la nuit sur la poitrine des petits-enfants. Je revois mon enfance et ma vie, et c'est toujours vous. C'est vous, la colline, où quand j'étais petite, je jouais en automne, au milieu des brindilles de bois que le vent casse sur les branches, au milieu des châtaignes piquantes et des trèfles reluisants. C'est vous, le premier arbre de mai, sous lequel je m'asseyais pour contempler au travers des paquets de feuillage le ciel d'un bleu très fort. Je pense à une allée de noisetiers, qui enfermait du soleil, à des bégonias d'octobre, pleins de rosées, frais et gelés, comme un son de cloche dans l'aube. À vous. Je pense aussi, mon chéri, que jamais je ne vous en ai de quoi que ce soit voulu. Si quelquefois, j'ai paru contrarié lorsque vous étiez irritable et sans patience, si j'ai répondu avec colère à vos reproches, ne me croyez pas. Mon instinct était de continuer à caresser votre main. Nous ne vous jugeons pas. La passion qu'on nous donne et celle que nous rendons, nous l'acceptons comme une grande fatalité où tout est mystérieux et nécessaire. Vous savez bien, je n'étais pas révoltée. J'ai tout de suite compris que la femme et l'homme ne sont pas pareils devant l'amour. Je me souviens de votre douce et tendre ironie lorsque vous observiez sur mon visage à quel moment, chez une religieuse, le trouble l'emporte sur le scrupule. Je ne vous en voulais pas. Nous ne pourrions reprocher à l'amour ni ses injustices, ni ses violences, mais seulement ce qui serait moins d'amour. Vous m'avez aimé et détesté, blâmé et loué, empli de votre amour, vous m'avez tout donné. C'est à cela que je pensais souvent, quand, vous vous le rappelez, couché sur le côté gauche, les deux mains jointes sous ma joue, sans parler, je vous regardais avec une douceur de cœur que vous ne saurez jamais. En ce moment, sur les doigts et l'ouvrage de la sœur Marthe, il vient un ray de soleil. Je regarde. J'ai peur de ce qu'on peut souffrir quand il refera beau temps. Représentez-vous, mon chéri, ce que c'est l'été, cet azur, l'été quand dès le matin toutes les vitres paisibles de la maison sont exaltées de lumière, quand tout l'espace a une fièvre lente, des pulsations langoureuses, et que la gerbe tournoyante du soleil se dénoue et semble dire « Que craignez-vous ? Respirez fortement. J'emplirai votre bouche de bonheur. » La sœur Marthe me demande ce que j'écris. Je réponds. Ce n'est rien, c'est mon cahier. Voyez comme on me surveille. Et comme je suis faible et fatiguée, je redoute un peu tout le monde. J'ai peur. Je n'avais jamais eu peur avec vous. 20 décembre. Presque tous les matins, la supérieure entre chez moi en tenant à la main une enveloppe et me dit. Voici une lettre. Je vous demande, ma petite fille bien-aimée, je vous demande de ne pas l'ouvrir. Laissez-la moi, je la détruirai. Je suis faible, je suis dans mon lit, et ce regard de la supérieure me domine entièrement, exalte en moi le sacrifice. Je réponds tandis que mon âme tourne et meurt en moi. Ma mère, faites ce que vous voulez. Et je mets autour de son poignet mes deux mains glacées. Je penche la tête, je pleure, elle embrasse mes cheveux. 4 janvier. La vie change. Il y a des malheurs plus grands que les miens. Je revois la supérieure comme elle était, ce soir, assise près de mon lit. Le silence et une contraction terrible défiguraient son visage. Je ne l'interroge pas volontiers, mais j'ai dit pourtant « Qu'avez-vous ? » Elle a répondu « C'est une nouvelle qui m'est arrivée tout à l'heure, le décès d'un ami que je n'avais pas vu depuis 10 ans. » Et puis, elle a ajouté, avec une voix lente, où elle semblait savourer toute sa douleur, « L'homme que j'ai aimé est mort. » Ma mère, il est mort, l'homme que vous avez aimé est mort. Le cerveau ne comprend pas encore, ne peut pas enregistrer cela. Ce n'est pas encore vrai pour vous. Il faut du temps pour comprendre le malheur. Cela n'est pas clair tout de suite, mais il est mort. Il est mort depuis 2 heures, et ensuite ce sera depuis 12 heures, et depuis 24 heures, et depuis 10 jours. Il est pour toujours mort. Il sera plus mort encore demain qu'aujourd'hui, et plus encore dans 1 an. L'être que nous aimons est mort. Ce sont des mots simples et ordinaires, mais qui font dans les oreilles un bruit qui ne s'arrêtera plus. L'homme que j'aime vit. Il respire. Il est dans un endroit de la terre. Il parle, il rit, il se fâche. Il a des pensées, des habitudes, des désirs, des projets, de l'imagination. Il mange, il se lève, il se couche, il dort, il goûte l'eau, l'air, les parfums, il vit. Quand il y a du soleil, il est plus gai, et quelquefois il s'ennuie, il est contrarié, il s'irrite, il a de la colère. Il pense encore à moi, et puis il ne pensera plus à moi, il pensera à d'autres femmes, il les aimera. Vivez, mon bien-aimé, que la vie vous entoure, vous baigne, vous caresse, qu'elle brille dans votre âme et sur vos cheveux, qu'elle soit autour de vos mains, sous vos pieds et par-dessus votre tête. Je pense aux oreilles qui n'entendent plus, à qui on crie leur nom, et qui n'entendent plus. Obstination terrible des morts, et ce silence. 16 février. La supérieure et moi nous parlons peu. Que pourrions-nous dire? Mais nos cœurs se concertent tout le temps. Mon sommeil même fait attention à elle. Il me semble que l'air près d'elle est douloureux et délicat. Quand on parle, quand on bouge, j'ai peur qu'on lui fasse mal. Hélas, ma mère, où êtes-vous? L'ombre, l'ombre vous environne. Tout l'inconnu s'appuie contre vous et vous penche. Quelquefois vous souriez avec une affreuse béatitude, et vous n'êtes jamais plus parmi nous, ô morte mariée aux morts. 26 février. Rien. Le temps est calme et passe. 28 février. Pourtant, mon Dieu, on ne peut pas supporter l'idée qu'il est malheureux. Hélas, est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce qu'il se tourmente pour moi? Est-ce que ses mains sont froides? Mais il y a des femmes. Peut-être qu'une femme est près de lui. Ah, qu'elle reste près de lui. Toutes les femmes doivent être les mêmes, pauvres et douces auprès des hommes. Qu'elle tienne sa main, qu'elle la caresse, qu'elle le rapproche doucement d'elle, qu'ils soient deux êtres qui ont chaud ensemble, qui rêvent, qui frissonnent, qui sont volontaires et acharnés, qui oublient, mon chéri, qui oublient toute la peine de l'univers. 16 mars. Je suis entrée dans ma chambre. Je me suis arrêtée, surprise. Je sentais une présence dans la chambre claire. C'était les crépuscules de mars qui étaient là, qui s'étaient installés, qui semblaient assis sur la chaise, si doux. 1er mai. Sainte Vierge Marie, je vous offre le mois de mai où chantent les colombes, où les douces nuits brûlent comme des veilleuses blanches, où le cœur de toutes les jeunes femmes se brise quand au bord des fenêtres d'été, l'odeur du jasmin est plus forte que tout leur courage.